Un podcast, une œuvre, Arrêt Paris, Hugo Rondinone, Dog Days Are Over, 1996-1998. Quand je me balade à Paris, pas très loin de Belleville, il arrive qu'en traversant une rue, je sais jamais vraiment laquelle, c'est toujours un hasard un peu heureux, un grand panneau apparaisse sur un mur, comme une annonce publicitaire lumineuse, en arc de cercle et en arc-en-ciel, le texte dit « Cry me a river ». Cette installation m'a longtemps intriguée, amusée et un peu émue. J'ai découvert en réalisant cet épisode qu'il existait d'autres arcs-en-ciel lumineux, un peu partout dans le monde, des « rainbows ». Sur d'autres murs, dans d'autres villes, d'autres personnes que moi lisent « Long last happy »,« Dreams and dramas »,« Breathe, walk, die ». Ils sont d'un certain Hugo Rondinone, artiste multifacette pour lequel un épisode de Un podcast, une œuvre ne suffira pas à présenter l'ensemble du travail, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. En un épisode, je vous propose de parler de sommeil et de clown, mais surtout du rapport qu'Hugo Rondinone entretient à la couleur, son rapport au temps, son obsession des cycles, de son goût pour le paradoxe. Couleur, temps, cycle, paradoxe, tous ces thèmes sont contenus dans l'œuvre de cet épisode, Dog Days Are Over, que décrit la conférencière Isabella Santangelo.
Dog Days Are Over est une vidéo de la durée de 90 minutes réalisée par Hugo Rondinone entre 1996 et 1998. Dans un décor entièrement blanc, on voit un clown allongé par terre, en diagonale, qui occupe la totalité de l'écran. Au premier plan, nous retrouvons ses chaussures rouges, énormes, décorées avec des pois rouges, assez abîmées. La semelle est tellement proche que nous pouvons lire sa pointure. Numéro 42, son corps étendu, sa jambe droite est pliée. Il porte une combinaison rouge en lycra qui révèle un ventre assez prononcé. Des chaussettes à laine ressortent de ses chaussures, toujours rouges, mais plutôt épaisses et bien enroulées. Rondinone est né en 1964 à Brunnen, des parents italiens originaires de la ville de Matera. Émigré en Suisse pendant les années 50. Il vit et travaille à New York depuis 1998. Rondinone est photographe, sculpteur, dessinateur, peintre, vidéoartiste et souvent clown triste lui-même.
Alors, je pense que quelqu'un qui n'a absolument jamais vu son travail et qui se retrouvait dans une exposition de cet artiste risquerait en effet d'être un peu dérouté.
Éric Verhagen est historien de l'art, professeur d'art contemporain à l'Université de Lille. Il était un des commissaires de l'exposition consacrée à l'artiste en 2022 au Petit Palais à Paris.
Alors, il y a quasiment tous les supports. Hein, donc, c'est un artiste un peu touche-à-tout. Hein, donc, il a à la fois réalisé des vidéos, il a aussi un travail pictural, graphique, il y a des installations, il y a des sculptures, il y a un travail performatif. Donc, c'est un artiste multifacette. Les premières œuvres, ce sont des œuvres assez, de facture assez classique. Hein, ce sont des encres de Chine sur papier. Ce sont des paysages, hein, donc un peu d'inspiration, on va dire, presque romantique, hein, qui peuvent aussi évoquer le XVIIe siècle, qu'il a commencé donc, à produire donc, à la fin des années 80. Alors, la deuxième série qui va aussi largement contribuer à le lancer hein, est une série de peintures. Pour le coup, des peintures plutôt d'obédience abstraite, hein, donc circulaires. Hein, donc ce sont des sun paintings hein, donc, qui sont censés évoquer donc, des soleils et qui sont en effet, pas en contradiction, mais en opposition donc, à ces dessins donc, d'inspiration et de facture plus classique.
Dès le début, opposition et paradoxe, Hugo Rondinone est inclassable.
Je pense qu'il est assez, en effet, on peut difficilement le classer dans un courant ou dans une tendance. On pourrait dire avec beaucoup de précaution que c'est plutôt un artiste que l'on pourrait rattacher à une forme de postmodernisme, si l'on veut bien entendre par ce terme une manière de concevoir l'art qui s'affranchit de tout récit dominant, un art aussi qui est très référencé, hein, ça veut dire que Rondinone n'hésite pas en effet à s'inspirer ou à rendre hommage ou à former des espèces de clins d'œil à d'autres artistes à la fois anciens et contemporains. Donc c'est quelqu'un qui ne revendique pas forcément une forme d'originalité au sens où pouvaient l'entendre les modernistes.
Avant d'arriver au clown, quelques précisions supplémentaires. Pour vous figurer l'œuvre de Rondinone, il faut savoir que toute œuvre est pensée avec son espace d'exposition. Et c'est le cas pour toutes ses œuvres. D'ailleurs, difficile de connaître leur nombre exact. Plus d'un millier peut-être. Un artiste prolifique, donc.
Très prolifique. C'est un artiste très prolifique. Et voilà, j'ai envie de dire qu'à partir des années 90, ça va vraiment devenir exponentiel. Donc, il va commencer timidement avec une, deux, trois séries. Et aussi avec le succès venant et les propositions d'exposition, parce qu'encore une fois, son œuvre est vraiment un art de l'exposition. À partir du moment où il a eu la possibilité de montrer ses œuvres dans différents cadres et contextes, il a bien entendu aussi produit des œuvres spécifiquement donc pour telle ou telle présentation. Et à partir de là, en effet, donc cet arbre généalogique c'est très fortement enrichi, quoi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le travail, hein, je conseille de faire un tour sur son site, hein, parce que l'artiste a un site qui est très très bien fait, qui permet voilà, de se familiariser donc, avec les différentes séries produites donc, depuis la fin des années 80, et vous allez voir que c'est assez vertigineux. C'est pas commun, disons qu'à ce niveau et à ce degré-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si paresse il y a, en tout cas, ça n'est pas la paresse de Rondinone lui-même, parce qu'il est quand même plutôt dans une forme d'hyperactivité permanente. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui gère plusieurs projets à la fois, jusqu'à 10 expositions par an. Donc la paresse, lui, il ne la connaît pas, en tout cas.
Non, si paresse il y a, c'est bien celle de ce clown dans l'œuvre « Dog Days Are Over ».
La tête du clown est posée sur un oreiller des fortunes, composé par trois couvertures enroulées, celle du sommier blanche, une autre beige, et une dernière est en laine marron. Le visage du clown est redécouvert d'un maquillage chargé. Tout son visage est peint en rouge, mais ses yeux et sa bouche sont maquillés en vert et bordés de blond. Sa bouche est entourée par une forme ovale qui descend vers les bas, une sorte de sourire à l'envers. Il porte une perruque jaune d'une jaune intense, vif, presque fleurissant, qui redécouvre uniquement ses tempes. En 1995, Rondinone s'est mis en scène lui-même comme unique œuvre dans une installation au sein d'une galerie. Son moulage était assis par terre, avec les dos qui touchaient les murs. Et le reste de la salle était totalement vide. Un an plus tard, il répète le même scénario. Cette fois, il n'y a pas l'artiste, mais quatre sculptures des clowns sous les sols, exactement dans la même position. Des vidéos qui les reproduisent sont projetées sous les murs, accompagnées uniquement par les sons d'une respiration en slow motion. Parmi les quatre clowns, on reconnaît facilement les mêmes personnages de la vidéo, Dog Days Are Over.
Cette vidéo a été, me semble-t-il, montrée pour la première fois en 1996. Donc, elle fait suite, en effet, à l'introduction de ce thème du clown dans son œuvre au début des années 90. Donc, c'est l'une, je pense, des toutes premières déclinaisons vidéo de clown. Alors, la vidéo en tant que telle, elle se résume à une action, ou plutôt une absence d'action très simple. Hein, donc, un clown est allongé, affalé. Un plan fixe nous le montre pendant plusieurs dizaines de minutes. Hein. Le tout accompagné d'une bande-son un peu lancinante qui nous donne à entendre en fait, le souffle du clown, nous laissant supposer qu'il est dans un état de léthargie, presque endormi. Hein. Donc, quand on regarde de près, on voit qu'il n'est pas endormi. Hein. Donc, on voit qu'il est bien réveillé, dans une situation de repos absolu.
Qu'est-ce que fait le clown pendant une heure et demie? Rien de spécial. Il ouvre et referme ses yeux avec des intervalles de temps longs et irréguliers. Il garde ses yeux ouverts un peu plus longtemps, mais son regard n'échange pas. Il reste tourné vers les plafonds, était loin, perdu en un ailleurs auquel nous n'avons pas accès.
Quand on regarde cette vidéo, on a quand même cette sensation du temps qui passe, peut-être un peu lentement, hein, parce qu'encore une fois, cette vidéo ne fait peut-être pas dans la séduction, hein, donc il faut quand même s'accrocher, hein, c'est pas forcément fascinant comme ça de regarder un clown avachi, allongé et d'entendre son souffle comme ça, un peu hypertrophié.
Les sons est une partie essentielle de la vidéo. Nous entendions une respiration lente, profonde, régulière et assez lourde. Il s'agit du souffle de quelqu'un qui est en train de dormir, mais également d'une personne qui semble être fatiguée, souffrante, qui fait des efforts pour arriver jusqu'au bout de son souffle. La respiration est accompagnée par une musique à peine audible. Il s'agit d'une musique rythmée et envoûtante qui rend plus supportable cette lourde respiration.
On a l'impression que la bande-son a été greffée en fait, sur la vidéo. Ce n'est pas le clown en tant que tel qu'on entend respirer, hein, mais je pense qu'il s'agit d'une voix autre, hein, qui a été associée donc, à l'image en mouvement, hein, si tant est qu'on puisse parler d'un mouvement, hein, parce que celui-ci est très, très relatif. Et pour revenir à ce thème de la paresse, oui, on peut dire d'une certaine manière qu'il s'agit d'un clown paresseux, hein, d'un clown un peu qui est peut-être dans une situation d'inemploi ou de grève ou de résistance, hein, en tout cas un clown qui ne veut plus se prêter au jeu, hein, et qui ne veut plus remplir sa fonction et qui a peut-être en effet décidé de se relâcher comme ça dans un état de paresse extrême.
Ce clown en grève, est-ce que c'est l'artiste lui-même ?
On ne le sait pas. Bon, je ne pense pas que ça soit vraiment très très important. Donc il y a sans doute eu des spéculations pour savoir si c'était lui ou non. Je ne le pense pas. Je pense qu'il a fait appel sans doute à un acteur, mais il se pourrait que ce soit, comme souvent dans son cas, une sorte d'alter ego. Alter ego, parce que, qu'on le veuille ou non, cette œuvre est quand même sans doute irriguée, j'ai envie de dire, de considérations autobiographiques. Hein, donc, il fait aussi référence par moment donc, à des événements, des situations ou des états d'esprit qui ont été les siens. Hein, donc, il dit notamment que la toute première série des encres a été produite suite au décès de son compagnon, à un moment où il avait aussi un besoin comme ça de se retirer. Et donc c'est justement toute cette thématique de l'enfermement, du retrait, renvoie sans doute à des situations, des événements que lui-même a connus à un certain moment donné. C'est la volonté de se retirer d'une certaine manière, oui, de se retirer d'une forme d'action et d'activité, et en l'occurrence d'une activité clownesque, parce que le clown est certes un clown, mais il ne se comporte pas comme un clown. Il ne cherche pas à amuser la galerie, quoi. Il n'est pas dans une recherche d'interaction avec le public, oui, retiré du monde, quoi, mais retiré du monde du spectacle.
Le sommeil comme symbole de retrait du monde, ce n'est pas une nouveauté. Et c'est même une image très répandue dans l'histoire de l'art. Et ça, c'est l'historienne de l'art Stéphanie Jamet qui va l'expliquer dans quelques instants. Mais je vais demander, avant, ce que lui inspirait ce clown qui dort.
Là, pour le clown de Hugo Rondinone, il me semble qu'il joue avec à la fois l'idée de la paresse, parce qu'il est en train de simplement se reposer et ne rien faire. En même temps, il joue avec le ridicule de la situation, lui-même le clownesque, qui pourrait prêter à rire, mais à rire de soi. Et puis, c'est aussi le moment où on ne peut plus rire, puisque le clown a arrêté de faire semblant, nous entraîne dans une très grande image de mélancolie. C'est le clown triste qui revient ici en tête quand on le voit un peu plus amusé. Et évidemment, c'est une projection de l'artiste dans le clown, qui est une sorte d'autoportrait, l'amuseur, et qui est fatigué d'amuser et qui doit se reposer, peut-être retrouver la création.
Stéphanie Jamet est professeure d'histoire de l'art. Elle est aussi co-autrice d'un ouvrage intitulé « Regard sur le sommeil », dans lequel elle explique que la représentation des dormeurs et des dormeuses n'a pas eu la même signification au fil des siècles.
L'idée de ce livre, c'est de réintroduire la force du sommeil, la force des dormeurs, et comment les artistes ont vraiment décelé à travers cette figure une contre-posture, un contrepoint pour résister à des injonctions sociétales.
Le sommeil, au Moyen-Âge, c'est avant tout la paresse et l'inactivité.
À partir de la Renaissance, il y a ce basculement, non plus de la paresse et de la sédie qui était propre au Moyen-Âge, vers, au contraire, une figure qui est, par ce sommeil, étonnamment dynamique, puisqu'elle dit la création. Elle est une métaphore de la création. Ce sont ces femmes qui sont représentées endormies dans un paysage, donc à la fois à la Renaissance, mais il y a Poussin qui va reprendre cette image. Elle s'appuie beaucoup sur en fait une représentation antique qui est celle de l'Ariane endormie, donc une sculpture hellénique du IIe siècle où on voit Ariane abandonnée par Thésée, allongée, la tête reposant sur la main, coude légèrement levé, et c'est une posture qui revient dans la représentation qui est celle donc de la femme en attente. Ariane, elle a quand même une toge, elle n'est pas totalement nue, mais les autres, oui, sont nues. Elles sont nues, elles sont objets de désir, elles représentent toute la projection qu'un homme peut avoir, souvent homme peintre, sur le corps de la femme. Donc, ces femmes, on peut se demander si elles sont en train de rêver du paysage ou elles sont le rêve du peintre qui l'intègre au paysage comme une espèce de fluidité, mais la plupart du temps, c'est comme si elles étaient abandonnées là pour le plaisir de l'autre.
Des femmes nues et endormies à disposition comme métaphore de la création. Elles sont donc des figures positives et paradoxalement actives. On n'est pas trop dans une idée du repos.
Non, elles ne sont pas là pour se reposer. Ce n'est pas un sommeil réparateur, alors qu'au cours du XIXe siècle et du XXe siècle, d'autres femmes qui seront très souvent représentées, surtout par les surréalistes, mais pas simplement, je pense qu'il y a l'apparition de plus en plus d'hommes, notamment des hommes après le labeur. Au cours du XIXe siècle, les artistes se sont intéressés au sommeil comme repos après le travail. Il y a un caillebotte qui est très beau, d'un personnage en tenue de travail, bleu de travail, allongé, les jambes écartées, les bras derrière la tête, avec un chapeau sur le visage pour cacher ses yeux et lui permettre de dormir après le labeur. Aussi du côté paysan, Van Gogh, mais Millet avant lui, a représenté des paysans, un couple de paysans endormis dans des meules de foin. C'est là que ça change. Alors évidemment, c'est le rapport au monde ouvrier qui est repensé, mais pas que, le monde rural aussi, donc ici est souligné. Donc les basculements s'opèrent dans les sujets mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des sujets soit mythologiques, soit bibliques. On est passé d'une histoire de l'art qui était empreinte du sommeil mythologique biblique à une histoire de l'art qui s'inscrit avec les artistes dans le monde réel et qui s'intéresse aux personnes vivantes autour d'elles et qui n'ont pas forcément un lien avec ces récits précédents. C'est un corps social positif dans le sens où les artistes vont utiliser les dormeurs et les dormeuses pour signifier une attitude, une sorte de rébellion vis-à-vis d'un rapport au travail qui épuise. En regardant ces corps, les artistes vont poser une proposition qui est celle de développer une attitude pour contrecarrer de cette logique d'asservissement d'un corps par le travail. Montrer un corps qui a accepté d'être en soi et trouve une ressource en soi par le sommeil, ça permet de dire, eh bien en fait, je résiste dans ce moment-là aux injonctions de la société.
Le sommeil peut toujours, au XXe siècle, représenter l'acte de la création artistique. Et plus que représenter des dormeurs ou dormeuses, les artistes vont se représenter, eux et elles-mêmes.
Il y a eu un basculement. Là, ce n'est plus qu'une muse qui est représentée pour parler de la création, mais l'artiste lui-même. Et comment le sommeil donc continue d'être peut-être la source de moments où il y a une sorte d'action, finalement, activité cérébrale malgré soi, donc de l'artiste, et non pas un moment passif, mais vraiment actif, alors qu'en apparence, le corps est inerte. Et Chris Burden, qui lui-même va réaliser une performance de 22 jours dans une galerie en 1972, donc en Californie, il va installer simplement un lit dans cette galerie, il va dormir pendant 22 jours. Donc là, Burden a choisi de montrer que l'artiste, en ne faisant rien, était pourtant en train d'être, et par son propre corps, devenait art.
D'une certaine manière, c'est un peu ce qu'est notre clown. Par son corps, il est art. Puisqu'on parle d'une personne endormie dans une vidéo d'art contemporain, il faut qu'on parle d'une autre vidéo incontournable.
Je pense que la première vidéo clé, c'est celle de 1963, Sleep de Andy Warhol, où on voit le dormeur qui est en fait John Giorno, filmé par Andy Warhol, sur une durée qui serait approximativement celle d'un temps de sommeil de 6 heures, je crois, si je me souviens bien. Mais simplement, le jeu de la caméra qui balaye le corps de cet amant a essayé de trouver tout ce que recèle ce corps, ce moment où à la fois il semble abandonné, livré au plaisir de l'observation, et en même temps le plus en lui-même, c'est-à-dire que ce corps est concentré et échappe, parce qu'à aucun moment l'amant ne peut savoir ce qu'il a derrière les yeux, puisqu'ils sont clos. Et la caméra joue et rejoue de cette caresse, finalement. On sait que c'est non pas la durée exacte du temps du sommeil de Giorno, mais bien un montage de la part de Warhol. L'idée du hors-temps dans ces moments, cette caméra, cet enregistrement vrai, il est, je pense, une façon de plonger le spectateur dans l'image filmique et par la projection, le mettre dans un état assez similaire, essayer de passer le moment d'ennui vis-à-vis d'une image fixe, se projeter dans ce corps lascif, paresseux, mais qui ne l'est pas, et en faire une sorte d'aller-retour entre son propre corps, qui devient un moment de contemplation et peut-être de rêve éveillé. Et ça, c'est très important, je pense, grâce à la vidéo.
Clin d'œil de l'histoire, le dormeur de la vidéo de Warhol, le poète et artiste John Giorno, deviendra en 1997 le partenaire de Ugo Rondinone. Celui-ci organisera au Palais de Tokyo en 2015 une exposition rétrospective de l'œuvre de son conjoint en forme de déclaration d'amour, « I love John Giorno ». Fin de cette parenthèse, people du monde de l'art. Ce qu'explique Stéphanie Jamet, c'est que la représentation du sommeil peut, à travers le temps et les œuvres, évoquer des images contradictoires, opposées et paradoxales. Paradoxal, cela correspond bien au travail de Rondinone, rien que dans ce clown triste.
Le paradoxal et le contradictoire sont, j'ai envie de dire, les moteurs principaux de son œuvre. Hein, donc, alors, soit au sein d'une même famille, d'un même groupe, comme dans les clowns, soit sous forme un peu antagoniste, où telle série va contredire la série précédente, ou en tout cas la compléter un peu à l'image des soleils qui vont compléter donc les encres. Alors, le clown apparaît dans son travail dès le début des années 90, hein, d'abord sous forme de dessins et de peintures murales. Le thème du clown va vraiment s'imposer avec les vidéos, puis à partir des années 2000, à travers des familles de sculptures. Alors, ce sont des sculptures que l'on pourrait qualifier d'hyperréalistes, hein, qui ont été produites à partir de modèles que l'artiste a choisi, sélectionné, habillé donc une fois sculpté. Mais on retrouve finalement la même idée du clown passif, hein, donc léthargique, endormi, assoupi, assis.
La famille de sculptures qui est la plus connue, c'est celle qui s'appelle Vocabulary of Solitude, vocabulaire de la solitude. 45 clowns sont répartis dans l'espace d'exposition. Wake, rise, sit, hear, look.
La logique de ces 45 clowns est en effet que, alors, chaque clown est censé représenter une action.
Dress, drink, cook, smell, taste,
assez primaire. Mais donc là aussi, si vous voulez, il y a une sorte de dissociation qui s'opère entre les verbes et les titres et ce que font vraiment les clowns. Et selon Rondinone, en fait, ces différentes actions sont censées en fait représenter une personne, une et même personne. Donc c'est comme si en fait, à travers donc ces dizaines de clowns, en fait, ils déclinaient donc différentes actions ou inactions, encore une fois, parce que les titres et les verbes sont une chose et ce que nous donnent à voir les clowns, une autre.
Sing, dance, fall, curse, yawn, undress, lie.
Ils sont habillés avec des habits de clown et très colorés. Oui, moi je parlerais d'une espèce de palette un peu technicolore, quoi. Donc il y a des couleurs très flashy, très fluo. Oui, il a toujours joué là-dessus. Hein. Donc, il est très très attentif en fait à l'ambiance chromatique à la fois de ses œuvres et de ses expositions et de ses installations. Voilà, donc on retrouve finalement la couleur qui est très présente dans les peintures circulaires, de même que dans la vidéo « Dog Days Are Over », la bande-son peut évoquer en effet une espèce de boucle, hein, ce loop hein, qui renvoie donc là aussi finalement à la figure circulaire des tableaux des soleils.
Et des rainbows dont je vous parlais dans l'introduction. Cycle, boucle, quelque chose qui se répète. Pour sa première famille de sculptures de clowns, Rondinone avait nommé 7 clowns selon les jours de la semaine.
Alors, c'est vrai que l'artiste aime bien, dans la mesure du possible, créer des ensembles, on va dire, clos. Tout cela renvoie en effet à la thématique du temps et à la thématique du cycle, hein, qui là aussi est omniprésente dans son œuvre. Hein. Il y a beaucoup d'œuvres qui tournent autour du cycle, autour du temps, autour de dates hein, aussi. Hein. Donc, ses toutes premières œuvres en fait, sont nommées d'après le jour où l'œuvre a été produite. Quasiment toutes les œuvres ont un lien, alors, soit au temps, soit à l'espace, mais c'est vrai que la dimension temporelle est très présente dans son œuvre. Le temps qui passe. Ouais. Temps qui passe, qui s'écoule.
La question du temps obsède l'artiste depuis le début de sa carrière. Ici, le temps ralentit pour créer un univers propice à la contemplation. Rondinone affirme « La lenteur est un thème important pour moi ». Puisque je pense que la valeur de l'art est dans sa lenteur inhérente. Je ne cherche pas à entrer en concurrence avec une industrie où la rapidité est la force principale. Au contraire, la lenteur me permet de trouver ma propre voie. Je crois à la créativité individuelle. Je crée mes propres règles et mon ton. Un artiste doit rester indépendant et solitaire.
Lui-même, d'ailleurs, parle de décélération. Alors, soit une sorte de mouvement contraire, mais en tout cas, ouais, une forme de ralentissement. Le temps de vie aussi, de voir le temps de survie. Il est très attentif au fait que ses œuvres en fait, puissent s'adresser à un très large public, toute génération, genre et culture confondues. En tout cas, il ne fait pas partie de ces artistes qui cherchent à s'adresser à une sorte de communauté, aux micro-communautés en particulier. Il est très sensible à l'idée que son œuvre puisse être accessible aussi à des spectateurs qui ont une connaissance très relative de l'art contemporain.
D'ailleurs, quoi de plus pop culture qu'un clown ?
Un phénomène de divertissement qui transcende les cultures.
Et lorsque ses yeux sont ouverts, nous pouvons remarquer un regard vide, étant triste. Il ne bouge presque pas. Il déplace uniquement ses bras. Il les garde sous son ventre. Après, il laisse tomber un par terre. Plus il les soulève, et il finit par remettre ses deux bras sous son estomac. Il bouge les jambes, mais légèrement, toujours avec des mouvements lents. Son ventre, qui s'élève et qui s'abaisse lentement, nous permet de suivre sa respiration. Il cligne des yeux, déplace un peu sa tête, et sa perruque jeune devient encore plus amêlée. Et son regard est de plus en plus loin, Les clowns allongent les deux bras sous le sol, s'appuient sur ses coudes, gardent ses yeux ouverts un peu plus longtemps. Il semble presque qu'il a envie de se lever. Et nous attendons avec impatience son geste. Mais finalement, il ne fait rien. Allonge à nouveau son bras par terre et continue de regarder au loin.
Une œuvre peut ne pas avoir de message explicite, mais quand même provoquer une réaction qui peut être un peu extrême, quoi. Et encore une fois, disons qu'il ne donne pas de mode d'emploi, il ne donne pas une espèce de vademécum qui permettrait d'identifier un message précis. Si effet il y a, celui-ci est peut-être plus profond, plus archaïque, je ne sais pas. Quelque chose, encore une fois, qui dépasse les cultures, les affiliations.
Ainsi, la vidéo se poursuit, entre légères oscillations des jambes, vibrations des cils, inclination de la tête et soulèvement des bras. Jusqu'aux dernières secondes, les clowns ne regardent jamais vers nous. Il ne nous dit pas au revoir, il nous laisse sans aucune explication.
Contrairement au clown lui-même, j'espère que cet épisode vous aura donné des explications pour mieux comprendre l'histoire de la représentation du sommeil dans l'art, l'œuvre et la vision artistique d'Hugo Rondinen. Et peut-être que si vous croisez, au détour d'une rue, un message aux lettres arc-en-ciel, vous repenserez à tout cela. D'ailleurs, si vous trouvez celui qui dit « Dog days are over », c'était le dernier épisode de cette série Art et Paresse, qui a été écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel avec la musique de Nawal Ben Krayem et Nassim Kouti, et vous avez écouté une émission du Centre Pompidou.